Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, deuxième partie du podcast diffusé la semaine dernière, consacré au système d'osmateur et à la règle d'or. Cette partie est consacrée à la règle d'or. Voilà, je les ai divisées pour des raisons techniques et éditoriales. Je trouvais que ce que Vivien faisait là, à savoir, comme vous allez l'entendre, l'historique de la règle d'or à travers l'histoire de Donjons et Dragons et plus généralement du jeu de rôle, avait une, comment dire, une importance suffisante pour faire podcast à part, faire bande à part. J'aurais trouvé dommage que les réflexions de Vivien se retrouvent à la fin d'un long podcast de 3 heures, alors que je trouve que ces réflexions méritait un podcast à part entière. Voilà. Allez, je vous laisse avec votre podcast. Bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Donc tu disais dans ton j'aimerais qu'on revienne à tes articles
ouais.
Quoi, après cette longue digression.
Ouais, mais bon,
à mon avis
pas,
nécessaire.
Je pense pas que c'était inutile.
Ouais, à mon avis nécessaire.
Enfin, on verra. Peut-être que d'autres trouveront ça.
Oh bah de toute façon.
Ça, écoute, j'essaye de refaire le lien parce qu'à un moment j'avais pensé à un lien avec la règle d'or et j'essaye de m'en souvenir. Pour moi, en fait, si je pense que je vais réussir à faire le lien, mais je vais essayer, j'espère
t'en
réussir à faire le lien. À un moment ou à un autre, on a parlé de la règle d'or, donc je sais que Doug Dandy avait beaucoup hurlé sur la règle d'or. Pour moi, il y a deux façons de la voir. La règle d'or, donc, c'est l'idée que ce qui compte le plus avant les règles, on va dire, c'est le bien-être de la partie, entre guillemets. Le problème étant, bien sûr, que c'est très vague, le bien-être de la partie, qui décide de ce qu'est le bien-être de la partie, etc. En général, c'est le MJ, puisqu'il a plus d'autorité, plus de pouvoir, donc après, il y en a qui en abuseront sans doute, d'autres qui croiront bien faire, mais pourront peut-être faire mal, d'autres qui seront peut-être plus collaboratifs, etc. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses, du bien comme du mal, en fait.
Ouais.
Et du coup, on se retrouve avec deux exemples. Doug Dandy, je crois, je vais essayer de pas trop déformer, je pense, de ce que j'ai compris de lui. Son problème, c'est par exemple quelqu'un qui propose une partie, qui dit on va jouer à vampire. Et là, tu dis ah cool vampire, je me souviens, j'ai lu le bouquin, c'était vachement bien, j'aime bien les règles, j'ai envie de jouer un toréador un peu sombre machin. S'il y a un peu de combat comme dans tous les jeux de rôle, ça ira, mais voilà quoi, je sais à peu près où je vais. Et là, il tombe sur un jeu où le MJ, parce qu'il a la règle d'or et parce que, comme disait Jérôme, le MJ a toujours raison et qu'il est dans cette culture, il va dire ah ouais mais les règles c'est trop naze, je les ai virées, en fait je les ai remplacées par des règles de je sais pas de Stormbringer et en fait
changer les règles d'initiative mais... du coup voilà. Tes points en célérité tu peux te les carrer.
Non mais là on rigole hein. Mais ça
non, mais c'est
quand
clair.
J'ai commencé le jeu de rôle c'était la norme ça ce qu'on est en train de
faire. Moi j'ai fait des parties de RunQuest avec les règles de Rêve de Dragon dans l'univers de non en faisant le donjon comment ça s'appelle le Temple du Mal Élémentaire. Donc, autant dire qu'au final, le mélange commençait à piquer sévère parce qu'il y avait beaucoup de combats avec un système qui est très mauvais pour les combats dans un univers qui est complètement différent. Donc, à la fin, bon, c'était, là, il y avait des trucs sympas hein, dans la partie malgré tout, mais c'est vrai que tu es en droit, on va dire, de t'agacer un peu, voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Enfin bref.
Donc, le
voilà.
Mec qui arrive. On lui dit tu vas jouer à Vampire et il joue avec le système de Stormbringer.
Oui voilà, j'avais des exemples, genre tu lis le bouquin de Loup-Garou, tu dis ah oui c'est des éco-terroristes, c'est cool, je trouve ça vachement important la nature et tout, et tu te retrouves en fait, le scénario c'est tu montes dans un ascenseur, il y a des démons qui tombent toutes les 5 minutes et tu dois les latter jusqu'à la fin de la partie. Ça aussi c'est un exemple tiré de faits réels. voilà. Bon,
ça fait plaisir.
T'as des trucs comme ça où bon, tu dis quand même, j'ai un peu perdu 4 heures de ma vie. Alors il y en a qui l'ont très 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 mal vécu et qui ont encore des soubresauts aujourd'hui rien qu'à l'idée. D'un autre côté, moi ça m'est arrivé d'autres choses, c'est-à-dire par exemple, je fais une campagne de loup-garou qui se passe très bien. On joue avec les règles à peu près, on joue avec un setting de loup-garou et puis vers la fin, on se fait un combat contre un ver géant et là les règles commencent un peu à tirer un peu quoi, parce que le monstre géant c'est vas-y jette tes 10 dés, maintenant ok t'as touché, jette tes 10 dés plus tes 6 dés de succès, ok lui il encaisse, maintenant il jette ses 10 dés plus 5 et ainsi de suite et tu le ronges un point de vie par un point de vie sachant qu'il en a 37, enfin tu vois quoi. Et là tu dis bon bah et là le MJ dit bah écoutez là ce que je vous propose c'est clairement vu le système il tient pas la route, on va passer en mode narratif. Et là, tu fais la fin de la séance en description, tu décris les coups, machin, et à la fin, tu gagnes, quoi. Puisque là, quand tu passes en mode narratif...
À la fin, tu gagnes. Quoi.
Voilà, à la fin, tu fais ton combat épique.
Sauf dans
de
un
fin.
Jeu de Thomas Meunier, ou... enfin, tu perds.
Et ça, c'est un effet de la règle d'or, quelque part. Ouais. Tu vois? Et c'est un effet plutôt positif. Et quelque part, toi-même, t'as ça dans le sens aussi, un petit peu.
Bien sûr.
Voilà.
Si c'est cohérent, ça passe.
C'est ça. Ouais. Sens néant. Typiquement, si tu joues les règles telles quelles pour les combats contre les maîtres irritants, tu vas te faire chier un moment, quoi. Sauf si t'as la technique optimisée, peut-être, en appelant tous tes amis de la forêt pour te booster ou un truc comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même l'idée. Toi-même, tu le disais, une fois que t'as mis un premier coup, tu passes en ellipse.
Bien sûr.
Et voilà, quoi. Et ça, c'est une règle d'or pour moi.
Ouais. Je comprends parfaitement. Alors, la règle d'or, historiquement, elle vient de Vampire la Mascarade.
En fait, c'est un héritage de Donjons et Dragons. Si tu veux, j'avais des citations de ça.
Non, mais apparemment, le fait de l'appeler règle d'or...
Ouais, ce serait le monde des ténèbres, en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'en ai comparé, et entre Vampire 1 et Vampire V2 en anglais, déjà, il y a une modification de la règle d'or.
D'accord, ok. En tout cas, voilà, c'est ça. Alors, je crois que tu... Ok. Je pense que tu fais une petite confusion sur la différence entre adapter des règles données à une situation donnée et la règle d'or. La règle d'or, c'est on s'en fout de tout, quoi. C'est tout est acheté à la poubelle. Le bébé, l'eau du bain, la maison, les fenêtres et la porte, quoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, la règle d'or. Faudrait la retrouver dans Vampire la Mascarade. Je vais prendre.
Attends, je l'ai quelque part.
Moi, je crois savoir où elle est. Hein.
Je peux te lire, du coup. Alors, en gros, dans Donjons et Dragons, au tout début, c'est en gros. Ces règles ont pour but de servir de ligne directrice. Il n'existe pas de maître du donjon qui gère leur donjon de la même manière. Vous rencontrerez forcément des situations non couvertes par les règles. Donc tout ça, ça c'est la règle. Vous pouvez inventer des règles. C'est pas tout à fait la règle d'or telle qu'on l'a décrite. 1981, donc une autre Donjons et Dragons. En un certain sens, une partie de D&D ne comporte pas de règles, seulement des suggestions. Ah. Aucune règle n'est inviolable, surtout si l'ajout ou la modification encourage la créativité et l'imagination.
Ouais, tu vois, ouais.
Donc déjà, tu vois, c'est déjà quasiment la règle d'or de...
Ah ouais, d'accord.
1979, ça c'est encore Donjons et Dragons, ça c'est Advanced Donjons et Dragons. Ce qui compte vraiment, c'est l'esprit du jeu plutôt que la lettre des règles. Ah, ne vous arrêtez jamais à la lettre et ne laissez jamais quelques pinailleurs de première utiliser des extraits du livre des règles contre vous, si cela va à l'encontre de l'intention apparente du jeu. Là, tu vois, il y a un autre... Mais là, c'est... Il y a une vraie différence, en fait, entre la continuité de Donjons et Dragons, c'est-à-dire des nouvelles éditions de l'ancien Donjons et Dragons, et le AD&D, qui est en quelque sorte Gary Gygax, qui revient sur le devant de la scène et qui dit « Oh là, oh là, oh là, oh là !» Il y a quand même mon jeu, quelque part, il y a quand même une intention derrière. Mais quand même, qui laisse...
Ça me rappelle mes campagnes nulles.
Ah, c'est génial. C'est génial que tu nous aies retrouvés tous à vivre. Franchement...
Ouais, bah, c'était pour l'article que j'ai pas fini.
Ah, hein. Je suis vraiment content.
Et alors, Vampire première édition, du coup. Alors, sachant que la plupart, c'est des traductions de moi, donc j'ai essayé quand même de faire ça en un peu chiadé, mais voilà, il y a toujours une petite part possible de... Les règles de base de Vampire ont été conçues pour être simples et flexibles. Simples afin que les principes de base puissent être compris très facilement, même par quelqu'un qui n'a jamais joué à ce type de jeu avant. Flexibles pour pouvoir couvrir la plupart, sinon toutes les possibilités offertes par un jeu s'inscrivant dans l'art du compteur, j'ai gardé la traduction, et fournir un système de résolution raisonnable et crédible dans la majorité des circonstances. C'est à vous de présenter les règles de façon à ce que les joueurs comprennent leur fonctionnement, tout en étant capable de les utiliser avec assez de souplesse pour permettre des scènes et des rencontres à la fois réalistes et dramatiques. Alors, en tant que compteur, vous allez rapidement développer votre propre style. Cela dépendra en partie de votre personnalité et de vos préférences, mais reflétera également les goûts de vos joueurs. La grande étendue des styles possibles sera mieux illustrée par le recours à deux archétypes représentant les deux extrémités d'une même échelle. Tous deux sont exagérés et vous finirez probablement quelque part vers le milieu. Ça, c'est la première édition de Vampire en anglais. Donc les deux archétypes, c'est l'avocat des règles, à un bout de l'échelle. Ce type de compteur insiste pour faire des jets de dés à tout propos, applique les règles à la lettre aussi souvent que possible. Si un personnage est assis sur une chaise, l'avocat peut demander au joueur de faire un jet de dextérité pour éviter de tomber. On frappe à la porte, test de perception pour voir s'il l'entend. Tout cela est ridicule, bien entendu, mais montre à quel point ce type de comportement peut se révéler extrême. Autre bout de l'échelle, le compteur libre. Pour ce type de compteur, l'histoire prime surtout. Les dés ne sont lancés qu'occasionnellement et uniquement pour le son agréable qu'ils produisent. En fait, le compteur décide sans dés de ce qui va passer et guide les joueurs comme s'ils lisaient un livre. Les actions du personnage peuvent diriger l'histoire, mais c'est le compteur qui décide du résultat. À ce à quoi ils ajoutent quand même, en tant que jeu, Vampire tend davantage vers la forme libre que vers celle régie par les règles. Ces dernières sont là pour vous aider, pas pour décider à votre place. Les joueurs devraient cependant bénéficier du maximum de liberté et ne jamais avoir le sentiment que leurs décisions et leurs actions ne font aucune différence. Donc ça, c'est vraiment Vampire première édition, quoi. C'est 1991.
En fait, la règle d'or, elle a un point commun à chaque fois, moi, je trouve. Enfin, il y a toujours un point commun qui est, en gros, on vous file des règles pour gérer plein de situations. Ouais. Donc là, les règles sont vraiment donc des mécaniques de résolution. En l'occurrence, ça, c'est pas n'importe quoi comme règle. Hein. C'est vraiment des mécaniques de résolution pour résoudre plein de situations. Et en fait, n'utilisez que celles qui sont pertinentes dans le cadre de l'histoire. Et c'est ça qu'ils disent.
C'est ça. En gros, c'est
donc,
ça.
Donc, quelque part, voilà.
Et juste après, ils vont plus loin. Ils vont quand même jusqu'à dire qu'il est possible des fois d'ignorer les règles une première fois. Enfin, voilà,
en
que c'est
fait,
un acte.
En fait, allez, je vais le dire comme ça.
Vas-y.
En fait, la règle d'or, on ne devrait pas l'appeler la règle d'or, on devrait l'appeler la règle de résolution d'or. Parce qu'en vérité, ce n'est pas une règle au sens où là, on en a parlé depuis le début de ce podcast.
Oui, effectivement. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un système.
Voilà, enfin, voilà, exactement.
Parce que justement, c'est une règle au sens de...
C'est une règle qui régit l'utilisation du système de résolution. Donc, cette règle d'or porte sur ce que j'appelais le système de résolution. Vous vous souvenez de cette vieille distinction que je faisais entre le système de jeu et le système de résolution ? D'ailleurs, à ce titre, appelant ici le système les règles. Intéressant ça aussi, hein. Comme quoi la confusion entre règles et systèmes chez moi...
Oui, on pourrait dire règles de résolution.
Voilà, exactement. Mais tu vas faire un bref.
Après, je ne sais pas à quel point, quand on écoute Maxime raconter sa fin de Sens Cosmo dans les podcasts sur les quadriades Cosmo, c'est pas vraiment une règle d'or, parce qu'il ne fait plus du tout appel au système, lui, avec sa règle d'or. Il laisse vraiment la créativité de chacun s'exprimer autour de
la table. Ça dépend. Si le système, c'est la nature élémentaire des écoles de foi dans Sens Néant, par exemple... il la respecte à fond, ça je peux te le garantir.
Oui, je pense que la règle d'or, c'est pas à mon avis annuler complètement l'univers du jeu, c'est ça.
C'est-à-dire que la règle d'or ne s'applique que sur les règles qui portent sur le système de résolution, mais les règles liées à l'univers, par exemple le fait que les toréadors soient des artistes figés pour l'éternité, des artistes ratés, etc. Ça, la règle d'or ne s'applique pas sur ces données-là. Ça veut dire qu'il y a quand même tout un tas de règles.
Tu pourrais l'appliquer, mais c'est vrai que c'est pas compris dans la règle. Enfin,
que tu l'as expliqué, c'est très...
Non, non, c'est ça, ils n'en parlent pas. Je pense que dans le paradigme du jeu traditionnel, tu peux toujours remplacer.
Les torés, il y en a plein de différents.
Mais réalité, à l'époque, il y avait une distinction entre les règles et l'univers.
Oui.
Et en fait, ça, c'est un vieux truc, ça, en fait. Donc, en fait, là, à l'époque, on distinguait règles et univers. Donc forcément, la règle d'or disait « N'utilisez que les règles de résolution utiles au bon déroulement de votre partie. » Moi, maintenant, je traduis ça en langage récent, moderne, où on sait que les règles, maintenant, vont justement de la façon dont le MJ se positionne autour de la table à le camp où on lancera un jet de dés. Ça donne des choses du genre « N'utilisez le système de résolution » que lorsque, et là, tu mets ce que tu veux, ça dépend du système de jeu, quoi. Lorsque tel joueur juge que cela est décidé. Par exemple, dans Polaris, lorsque le démon estime que l'attention est à son climax. Enfin,
je me souviens plus trop de Polaris, à quel point les règles sont contraignantes ou pas, tu vois. J'aimerais pouvoir prendre cet exemple, mais comme je m'en souviens plus.
Donc, en tout cas, tu vois, il y a l'idée que la règle d'or, c'est une règle d'or de résolution.
Ouais. Maintenant, tu veux un truc qui irait dans ton sens, dans le sens que tu avais quand tu critiquais beaucoup la règle d'or.
Je t'en prie.
Je te prends Mage, 1993, donc première édition. Et je pense que Vampire, deuxième édition, commençait déjà à être là. C'est pour ça que j'ai fait un choix, j'ai pris celle-là. N'oubliez jamais qu'il n'existe au fond qu'une seule vraie règle dans Mage. Il n'y a pas de règle.
Voilà.
Vous jouez un mage, et de même que les règles du jeu sont comme ces mythes qui décrivent toute une culture, vous devez être prêt à aller au-delà de cette culture pour décrire la vôtre. Alors c'est un peu plus ambigu quand même que ça, mais il y a quand même ça. Devriez faire de ce jeu ce que vous voulez qu'il soit. Si les règles vous barrent le chemin, ignorez-les ou changez-les. En fin de compte, toute la complexité et la beauté du monde réel ne saurait être saisie par une poignée de règles. Il faut des histoires et de l'imagination pour y parvenir. Vous trouverez donc ici moins des règles que des lignes directrices, des guides que vous êtes libre d'utiliser, de trahir, d'ignorer ou de changer selon votre volonté.
Voilà, donc là on en est à la règle d'or qui est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire, alors pourquoi ?
Parce qu'on est encore en fait dans la règle de résolution, sauf que c'est pas dit aussi clairement que dans l'édition précédente.
C'est une confusion en fait, c'est ça, exactement, tout à fait, c'est ce que je voulais dire.
Mais je pense qu'il y a des gens qui s'opposent farouchement. Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui s'opposent farouchement à l'idée d'une règle d'or du système de résolution. clairement. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'il y a des personnes qui s'opposent farouchement, qui veulent justement. Enfin, il me semble que ça a été quand même pas mal défendu malgré tout, l'idée que les règles, on peut pas les changer comme ça, tu vois, sur un coup de tête, en cours de partie ou en discutant.
Parce que les systèmes de résolution ont changé.
Alors voilà.
Alors pourquoi ? Alors oui, très intéressant ça. Pourquoi ? Parce que avant, on avait l'idée qu'un système de résolution réglait des interactions entre deux objets fictionnels. Typiquement, un personnage fictionnel et une porte fictionnelle à crocheter. Mmh. D'accord ? Donc on avait dans l'idée que le système de résolution... Pourquoi ? Parce qu'on avait une vision, je pense, un peu vidéoludique du jeu de rôle, ou en tout cas simulationniste.
Simulationniste.
Au sens ancien.
Au sens on simule un univers virtuel avec voilà, une physique. Avec
ce fantasme finalement de la réalité virtuelle qui hantait les esprits.
Oui.
Et alors donc du coup, on avait cette idée que le système de résolution résolvait en fait des conflits qui avaient lieu entre des objets fictionnels. Alors que aujourd'hui, les systèmes de résolution sont en fait des manières de dire quelle proposition va être acceptée dans le contenu fictionnel malléable de la partie. Autrement dit, les systèmes de résolution aujourd'hui résolvent certains des conflits. Systèmes. Certains systèmes, les jeux modernes, résolvent des conflits plus...
L'OSR n'est pas tout à fait...
Excuse-moi.
Justement.
T'as raison de me reprendre.
Je ne suis pas sûr que tous les tradis, en plus, non, même modernes, même récents, soient dans cette... Mais ouais, effectivement, mais,
c'est-à-dire qu'on a
on tend vers ça. Alors, en tout cas, il y a une bonne partie maintenant qui...
qu'on est en train de résoudre, c'est quelle proposition va être validée. Mmh. Et du coup, on est plus dans la résolution d'un joueur par rapport à un autre. On est plus dans la qui va avoir raison, tu vois, qui va l'emporter, ou en tout cas, quelle proposition.
Oui,
va
être ou à la rigueur, quelles péripéties vont arriver pour quelle direction va prendre l'histoire, quel rebondissement. Mmh.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la compréhension de la règle d'or, mais ça, c'est génial. Le travail que tu viens de faire, là, Vivien, recontextualiser en fait les énoncés de la règle d'or est très important parce qu'il nous permet de mieux comprendre en fait ce que les gens voulaient faire. C'est qu'en fait ils avaient conscience des limites de leur vision simulationniste des choses. Mmh. Et simulationniste ici pas au sens de Ron Edwards, simulationniste au sens de simulation réalité virtuelle. Ils disaient non mais en fait si on voulait vraiment tout, d'ailleurs il y a un passage qui
c'est dit noir sur blanc dans le truc de mage. Hein,
voilà,
des règles peuvent pas simuler la beauté du monde.
Oui.
Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et puis, il faut se souvenir que Vampire, c'était déjà le moment où on commençait à introduire l'idée que on était quand même... Vampire est un petit peu le cul entre deux chaises, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, on voudrait raconter une belle histoire, mais en même temps, on admet quand même que les joueurs ont leur mot à dire de manière importante dedans, que les règles sont là. Donc, du coup, bon, déjà, on va dégager un peu les règles et dire si les règles vont à l'encontre de la décision de tout le monde, ça va être pas terrible. Puis après, on se retrouve avec un meneur qui a une histoire à raconter, les joueurs qui ont peut-être envie d'aller dans un autre sens. Et bon, c'est là où on sentait que le paradigme était un peu branlant à ce niveau-là, quoi.
Mais en fait, alors, la règle d'or, c'est pas les joueuses font n'importe quoi avec la base. C'est pas ça, la règle d'or. C'est les joueuses choisissent quelles interactions entre les divers objets fictionnels sont intéressantes à résoudre ou non en utilisant les règles de résolution données dans cette base. Tu vois, ce serait ça le truc, je pense.
Et j'ai l'impression qu'en général, quand on dit les joueuses dans le cadre du monde des ténèbres et donc d'une conception plus traditionnelle, on veut dire le meneur de jeu en général. Sauf d'un des cas particuliers comme celui que j'avais cité pour mon histoire de bataille de Garou où on s'était mis d'accord parce que là c'était trop énorme quoi. Enfin je veux dire le combat final, faut que tu te mettes d'accord avec les joueurs quoi. Tu vas pas leur dire. Enfin au bout d'un moment ils vont dire mais pourquoi je fais pas de jet de dés là. Mais des fois ça va être, disons il y aura l'accord tacite des joueurs parce qu'ils se rendront bien compte qu'il y a un truc, mais le meneur de jeu prendra en général la décision unilatéralement parce que souvent. Ben, j'ai l'impression que, à part si la personne est quelque part un connard qui a envie de pourrir la vie de ses joueurs, ce sera souvent dans le sens de oh, c'était trop cool ce que t'as fait, je te file la réussite automatique parce que j'ai pas envie de lancer les dés et de prendre le risque que ça échoue lamentablement et je saurais pas quoi en faire en fait. Quoi.
Donc tu vois, quand les gens disent qu'il faut, quand les auteurs de jeux disent qu'il faut respecter les règles, en fait, ils s'opposent pas tellement à la règle d'or que ça en vrai. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais du coup, si on traduit la règle d'or comme choix de ce qu'on résout, tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui. En fait, en parce réalité, que... il faut se dire une chose, c'est que tout le monde applique la règle d'or. C'est voilà. Juste, comme tu dis, une question de niveau, plus ou moins fort.
Tout le monde l'applique, en fait. Même dans le sens, les gens l'appliquent. Moi, je l'applique, hein, dans le sens, la règle d'or.
Bien sûr.
De savoir
tout le monde l'applique.
Regardez, par exemple, dans le sens, donc, c'est les miroirs qu'il faut comparer systématiquement en mon cas d'interaction d'objet fictionnel à objet fictionnel. C'est dit clairement. Il y a les miroirs à comparer systématiquement. Limite, tu prends une cigarette, ta cigarette, elle a un miroir. Mmh. Et c'est expliqué dans la base, oui, il a expliqué comment la calculer.
Non, mais c'est écrit... Non, la Romaric, tu sous-estimes quand même ton Renaissance. C'est écrit qu'il ne faut pas le faire pour tout.
Oui, mais justement, ça, c'est la règle d'or.
Non, c'est écrit dans le manuel qu'il ne faut pas le faire pour une interaction non utile. Mais même, sans parler de règle d'or ou quoi, il y a, comme disait Vivien tout à l'heure, les règles que même de bonne foi, on oublie et tout ça, quoi. À un moment, oui, non, on peut. Enfin,
c'est juste que
règle d'or ou pas.
Peut-être que dans pas... sens, la règle d'or est formulée, mieux formulée, on va dire, mais elle est là.
Mais elle est là.
C'est ça en fait que veut dire Vivien, je pense.
Puis je crois qu'on a tous vécu cette situation, tu sais, où un joueur met une torgnole à un autre joueur, enfin un personnage met une torgnole à un autre personnage joueur. Tu sais, juste en mode, il y en a un qui l'insulte, bah, je te mets une claque. Et puis t'as ce MJ qui te dit, vas-y, fais un jet de dés. Mais non, mais enfin, je vais pas lui mettre un pain. Enfin, j'ai une force herculéenne, j'ai puissance. Si je lui mets un pain, je lui décale la tête. Si, vas-y, tu lui mets une claque, fais un GD. Là, t'as l'impression que le MJ se fout de ta gueule. Enfin, t'as juste et il va te pourrir la partie, quoi. Il y a des fois où il y a des moments comme ça où le.
Il y a des conseils qui sont pas inutiles des fois.
Maintenant, on semble tous dire là autour de la table que c'est cool, la règle d'or, que tout va bien, etc. Mais attention, c'est-à-dire que le problème, c'est que historiquement. Généalogiquement, cette règle-là que tu nous as citée, Vivien, comme la plupart des releases dans les années 90 distinguaient d'une part univers et règles, et d'autre part pensaient que l'univers ne faisait pas partie des règles et compagnie, en lisant la règle d'or, ils se sont dit qu'à cela ne tienne, je prends l'univers de Vampire et j'y joue avec les règles d'un autre jeu. Et c'est là que ça dérape.
Puis, une chose est de dire. Tout le monde modifie les règles à un moment ou à un autre parce que c'est vrai que le jeu de rôle, déjà, c'est dans l'ADN du truc. Et de fait, si un truc marche pas avec notre table, on va le modifier.
Ou à un moment donné, même
voilà,
bêtement.
Ou l'ignorer. Voilà, ouais. Mais une autre chose est de le mettre dans les règles en disant... Enfin, il y a un aveu d'échec aussi. Enfin, moi, je
croyais que t'étais
pas,
pour les conseils dans le livre.
Oui, mais le conseil de dire on s'en fout, c'est bien dire quand on s'en fout et quand on s'en fout pas, tu vois.
Voilà, c'est
par
ça.
Par exemple,
le point
tu
essentiel.
Vois ce genre de choses.
C'est ça le point essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, la règle d'or a été trop vite lue comme bon, en fait, on s'en fout de tout, quoi.
Ouais. Tu vois. Mais si tu veux, c'est pas forcément la règle la fautive, tu vois. Par exemple, il y a un problème de culture. Si on part du principe que la culture, le MJ a toujours raison, est problématique parce qu'elle peut être accompagnée de tout un tas de comportements, on va presque dire toxiques, en quelque sorte, quoi, d'abus abusifs, etc. Cette règle d'or, bon, c'est pas elle qui permet ça, en fait. C'est juste qu'elle lui donne un outil supplémentaire pour imposer, sa vacherie, quoi, quelque part. Et encore, on a vu la première version de Vampire, par exemple, parler des joueurs, quand même, à un moment ou un autre. Les joueurs n'étaient pas exclus du truc. C'était pas
pas toujours, parce qu'on pourrait voir la règle d'or comme une règle dont peuvent se saisir les joueurs pour justement retourner le MJ.
Oui.
Ou en tout cas, montrer son sadisme. Mmh. Par exemple, dire « Attends, tu me fais faire un jet de dés parce que quoi, là? Parce que je descends un escalier ?» c'est un peu salaud ça, faire un jet d'état, t'as envie de me tuer en fait. Et du coup, d'invoquer la règle d'or en disant attends, c'est quand même cohérent que mon personnage il soit capable de.
Puis arrête de me dire que c'est dans les règles, regarde la règle d'or, elle dit que les règles. C'est
pas. J'en reviens à ton premier article sur tomber dans les escaliers, tu vois. Donc ça peut être aussi la règle d'or, ça peut être aussi un outil pour les joueurs à saisir pour montrer en fait l'excès d'autorité du MJ et dire attends là, si tu me fais un jet de dés, c'est qu'en fait t'as envie que je rate.
Sauf que c'était la culture du scénario caché. Et donc le MJ a tout pouvoir pour dire si ça a un intérêt que tu lances à ce moment-là.
Oui, mais c'est pour dire que si tu veux, Jérôme, je suis d'accord avec toi, mais
c'est pas,
pour dire que
non,
la règle
c'est
n'est pas en elle-même.
Oui, oui, mais bon, il y a une conjoncture qui était mauvaise. Hein,
voilà.
Après Vampire, on peut se dire que c'était pas vraiment un jeu à scénario et que le scénario était plutôt rare.
Ouais, encore mais une fois, bon, moi, quand je suis arrivé sur le marché du jeu de rôle tout neuf, avec personne pour m'apprendre et aucun vieux de 40 ans et tout pour me dire comment faire, les scénarios que j'avais sur le NES, c'était des trucs dirigistes. Hein.
Vraiment, tout ce que je trouvais sur le net, et j'avais pas le Chicago by Night qui était qui est édité quand j'étais pas né ou je sais pas quoi là.
Ouais, non mais je vois le Succubus Club.
Enfin, et non quoi, enfin et tout ce que je trouvais sur le net en gratuit, c'était des scénars dirigistes avec des règles pétées, des
ah,
déjà
les,
de rien que dans le scénar.
Les scénars
sur le net,
je
comprenais même pas comment les intégrer à mes règles.
Donc est-ce que tu dirais, Vivien, qu'en fait le but de tes articles, c'était de réhabiliter finalement la règle d'or?
Non, mais en fait, je pense que...
Ou en tout cas, d'arrêter d'en faire le grand Satan.
Oui, alors déjà, il y avait ça, mais ça, c'est une des règles que j'avais pas sorties. Mais si on reprend donc sur l'idée des conseils, le problème, et ce que la règle d'or dit, c'est qu'en gros, on peut jamais dire telle règle, elle est efficace en toutes circonstances. Il y a plein de raisons, parce que le jeu de rôle est un... En fait, ce qui fait la force du jeu de rôle, c'est qu'on peut dépendent des situations d'une variabilité infinie théoriquement. Voilà. Et donc ça veut dire qu'une règle, soit elle va être très très surplombante et un peu fade, quelque part, peut-être, soit elle va être un peu précise, mais auquel cas il y a plein de situations où
elle ne s'appliquera pas.
Voilà, elle s'appliquera pas et ça ne va pas marcher. Quoi. Et du coup, il y a un moment où effectivement le jeu de rôle par essence, en tout cas dans ce cadre-là,
est une activité humaine
qui demande d'exercer son jugement, quoi, quelque part. Et là où souvent le MJ joue le rôle humain, de quelque sorte de facilitateur, quelque part, c'est lui qui gère plus ou moins.
Le MJ n'est pas une machine froide qui applique bêtement les règles qu'on lui a implémentées. Il est quelqu'un qui doit réfléchir à la pertinence des règles qu'il applique à la partie.
Et qui joue des fois le rôle d'amortisseur entre la règle et les situations, quoi. Très qui bien. Va dire, ok, là, je l'applique pas parce que ça va tout faire foirer. Pas parce que il veut forcément protéger ses joueurs, mais parce qu'il y a des fois où ça, voilà.
Et encore une fois, c'est toujours dans le contexte des règles de résolution dont on parle là.
C'est ça.
Ouais. Et là, moi, je ne peux être que d'accord, en fait. Tu vois, c'est... Jérôme, t'en penses quoi ? Moi, je peux être que d'accord, là. Moi, je vois pas comment m'opposer à Vivien en disant « Non, pas du tout, le MJ doit appliquer les règles de l'Union européenne !»
Non, oui, c'est dit comme ça, c'est sûr, ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a un côté... Par contre, du coup, la règle d'or trahit quand même une abondance de systèmes de résolution... inutile, ou en tout cas elle trahit le fait que la volonté de voir dans le jeu de rôle une réalité virtuelle est un échec.
Non,
quelque part.
Je me dis
un échec acté depuis Donjons et Dragons, quoi, donc depuis le début en fait. En
je
réalité.
Me dis qu'il y a des jeux, comme on disait au début du podcast, très dirigistes et tout, là, très.
Toboggan.
Voilà, toboggan, là, quasiment.
Participationniste, presque.
Ouais, voilà. Checkpoint Game.
Ah oui, Checkpoint
là,
Game.
Ah putain, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Checkpoint Game, pouf. Ah non, j'ai perdu, tant pis.
Bah, ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeux à l'époque, comme ils voulaient refléter une réalité virtuelle, il fallait par contre que toutes les situations puissent être
envisageables.
Ouais. Soit gérées par les règles, soit gérées par le MJ en mode et les joueurs en mode description, et puis on saute les règles, quoi. Là où maintenant peut-être ce qu'on accepte davantage en mode après la forge, c'est de dire c'est pas possible. Dans cette scène-là, il n'y a pas de combat. Ouais. Et oubliez les combats, vous gérez le truc comme vous voulez, mais par contre, vous ne ferez pas de combat, il n'y a pas de règle pour ça.
Et ça y est, du coup, c'est bon, je viens de me rappeler.
Cool.
C'est, en fait, il y a tout un tas de jeux, donc, notamment les Checkpoint Game, où, en fait, cette agentivité, tu t'en fous. Mm. En fait, le but, ça va de te faire éprouver une mécanique ou une scène,
ouais,
ou les deux, de manière très précise et en mode mais arrête avec tes trucs, là je veux te faire expérimenter un truc, et au pire si tu veux explorer l'infini champ des possibles, et bah tu iras jouer un jeu avec règles d'or plus tard, mais là ce que je te propose c'est un North East, c'est à 10 North étages East, et à chaque étage tu lances une pièce, un jeu dont je t'avais déjà parlé, qui se joue à deux et dont je proposerai sûrement un test un jour à la cellule.
D'accord, ok.
Qui a été créé dans le cadre d'un défi de 48 heures sur une des filiales de 4chan. Enfin, un des
4chan. Ah, mais en gros, ce que tu es en train de dire là, c'est que en fait, les jeux aujourd'hui ne sont pas des expériences qui veulent être totales. Elles ne veulent pas émuler un monde. Elles veulent te faire ressentir une expérience qui va dans un sens donné.
Voilà, il y a des jeux dans lesquels la règle. Enfin, après, il y a des jeux qui sont entre deux. Et y a des jeux qui vont être, de ce que j'ai cru comprendre, plutôt comme La Clé des Nuages, qui vont être complètement très libres, sans dire complètement règle d'or, parce que ce serait bizarre de dire ça. mais qui vont être très libres, et de l'autre, des jeux très resserrés qui vont dire vraiment teste cette mécanique.
Bah, c'est la clé des nuages ou la clé des songes? Non, c'est la clé des nuages.
La clé du nuage. Ouais,
la clé des nuages est justement, pour moi, correspond à ce que tu disais sur le jeu d'expérience.
C'est Félix Bérou. Hein.
Parce que c'est vraiment très, très. En fait, c'est comme prosopopée, tu vois, les possibilités sont infinies. Mais c'est des infinis dans un certain cadre très en fait précis quoi.
D'accord, il faudrait que j'essaye.
C'est
un
mage qui doit explorer un endroit et ça se passe suivant. Il y a des questions, il y a une question précise à poser. Et après, une fois que t'as posé ces cadres-là, l'intérieur est complètement libre, mais t'es quand même beaucoup plus cadré qu'en disant c'est le monde à vous de.
un petit peu, quoi. Tu vois, c'est marrant, mais j'ai la sensation. Alors. Je vais dire un truc, un gros truc, mais je pense que ça va vous faire réagir. J'ai la sensation que c'est moins une trahison de jouer à Vampire avec le système de Cthulhu, par exemple, parce que c'est deux jeux qui sont de la même époque et qui ont une vision du système de résolution un peu identique, que de jouer à Dogs in the Vineyard avec le système de Vampire. Vous voyez où je veux en venir ? C'est-à-dire qu'en gros... Comme les jeux, tous les jeux qui avaient dans l'idée qu'un jeu de rôle, ça devait être un univers d'une part, un système de résolution d'autre part, tous ces jeux-là ont des systèmes de jeux qui peuvent éventuellement être interchangeables.
Ouais, mais en fait, tu vois bien que c'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas.
La limite de ta comparaison,
mais
en fait.
Alors que un jeu, oui, mais en fait, ça nous permet de distinguer les jeux de rôle que je dis traditionnels des jeux de rôle que j'appelle modernes parfois. C'est qu'on voit bien que dans un jeu de rôle moderne, on ne peut pas y jouer avec le système de vampire, parce qu'il n'y a plus cette distinction aussi claire entre le système de résolution et le système tout court. Ce qui fait que, de fait, la règle d'or ne peut plus s'y appliquer comme avant. Est-ce que tu vois le...
Ouais, mais en fait, je ne suis pas vraiment d'accord en réalité. Okay. Parce que j'ai l'impression que Dogs in the Vineyard... À un moment, j'étais vraiment très... Oh, tu joues à Dogs in the Vineyard sans les règles, mais pff, quel intérêt Et en fait, mais bon, là, ça dépasse le cadre de cette discussion, je pense, sur mon questionnement d'interrogation sur les règles. Je me demande à quel point le cadre de jeu, par exemple, de Dogs in the Vineyard n'est pas déjà en soi une règle tellement forte que les règles sont, en fait, les règles viennent rajouter, mais si on les enlève, on joue quand même encore un petit peu à Dogs in the Vineyard, en fait.
On m'a souvent dit ça de sens aussi.
Est-ce qu'on peut pas cadrer la règle d'or plutôt que de simplement la balancer comme ça au crocodile? Je pense au jeu Apocalypse. Alors, je vais citer le premier Apocalypse World. Mais quand on me dit, voilà tes moves de MJ, et tu ne peux faire que ces trucs-là. Mm-hmm. Comme les joueurs, en fait, ne peuvent faire que leurs moves, plus ou moins. Et donc là, je regarde mes moves. Bah, je regarde prévenir d'un danger à venir. Voilà, un signe d'un danger à venir.
Donc ça, c'est, un move de MJ, ça, du coup.
C'est un move de MJ. Ouais. Et donc, je sais que c'est. J'ai pas 40 000 trucs, j'ai tapelet, c'est parlait, fais leur mal, montre un danger à venir, annonce-le, annonce quelque chose qui se passe hors champ. Et du coup, enfin, quand j'en choisis un, enfin, annoncer un danger à venir, je veux dire, j'ai l'embarras du choix, quoi. Là, je fais le café, je fais ce que je veux avec une directive comme ça. Mais j'ai une règle d'or qui va dans un sens. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, pour le coup, c'est aussi, à mon avis, pas pour rien que les jeux Apocalypse sont autant marqués, parce qu'ils arrivaient à trouver une espèce de synthèse un peu à leur manière, pas la synthèse parfaite, mais
ouais, je vois ce que tu veux dire.
Arriver à trouver clairement, équilibre.
En tout cas, la règle structurait un peu quelque chose qui était laissé complètement tacite auparavant.
De toute façon, les joueurs autour de la table vont devoir adapter les règles qu'ils utilisent à la partie qui a lieu et au système qui a lieu au cours de la partie ce soir-là, ici et maintenant, etc. Je ne vous refais pas mon truc. Donc, de toute façon, ils vont devoir s'adapter. Tu vois ce que je veux dire ? Il va y avoir une marge d'adaptation de toute façon. Donc, en fait, le rôle des règles d'or, maintenant j'ai envie d'en parler au pluriel, c'est de circonscrire des libertés, en fait. Des libertés que les joueurs peuvent,
De toute façon, il y a une marge d'adaptation. Prenons Apocalypse World, justement. Apocalypse World te dit, en gros, plus ou moins bien, parce que bon, c'est pas le jeu le plus clair du monde au départ.
Dungeon World, merci de m'avoir permis.
C'était Monster Hearts. Mais il a toujours fallu un autre jeu pour comprendre Apocalypse World.
Dungeon World plus Monster Hearts, je pense que tu arrives à bien comprendre Apocalypse World.
Est-ce que tu fais un move? C'est à peu près clair, mais ça reste de toute façon toujours sujet à interprétation. Un moment ou un autre, il y a une action qui te dit ah ouais, là clairement tu fais un move. Peut-être que d'autres diraient ah bah non, là c'est pas encore
donc
le moment.
Donc il y a une micro règle d'or.
Donc il y a quand même une micro règle d'or qui elle est plus ou moins
l'interprétation,
explicite.
Disons.
Voilà, il y a une interprétation. Ensuite, normalement, quand est-ce que tu
d'or, ce n'est que ça, en fait.
Je me souviens plus, je crois que dans Apocalypse World, tu as des soft moves et des hard moves aussi pour le meneur de jeu.
Alors oui, la plupart, mais alors c'est plus ou moins tacite et explicite. Et
ça dépend des jeux, il y en a où c'est clair et d'autres.
Voilà,
où
et du coup tu as des fois tu sais pas trop, il y a des fois où en fait et les soft moves, c'est du style avertir d'un danger à venir, alors que les hard moves, c'est mettez-leur une parpine dans la tronche. Voilà. Et des fois, il y a des soft moves qui ont l'air de rien, comme ça, mais qui prennent une dimension vachement plus violente en fonction des circonstances.
En fait, annoncer un danger à venir, ça peut être, et là, le mec, il sort son Desert Eagle et il te le met sur la tête. Ah, t'as annoncé un danger à venir, qu'est-ce que tu fais?
Alors que ça peut être aussi, il y a des nuages dans le ciel à 3 kilomètres, et il y a des gros éclairs, tu vois, enfin... C'est, y a, on voit une, mais alors qu'Apocalypse World apporte beaucoup plus de précision que juste la bête règle d'or en un paragraphe, on voit qu'il y a quand même encore une marge très 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 large d'interprétation. Quoi.
Large, mais et pour le coup que tu retrouves naturellement à utiliser de manière optimum pour l'histoire, quoi. Ça semble plutôt évident et sans qu'on nous, enfin.
Donc si, en fait, la règle d'or, donc bon, moi la règle d'or que j'ai combattue, ça n'a rien à voir.
Ouais, mais c'est pour ça que je voulais aussi.
Moi la règle d'or que j'ai combattue, c'est celle qui disait en gros, bon, tu prends Cthulhu et puis t'adaptes quoi. Enfin, tu veux faire n'importe quoi, tu prends toujours le même système de règles, sous-entendu de règles de résolution, et tu t'adaptes. Sous-entendu, le jeu de rôle c'est un univers et des règles. Moi c'est ça que j'ai combattu.
Alors que comme je te disais, on voit bien que l'appel de Cthulhu c'est des règles adaptées quand même un minimum à l'univers quoi. Il y a des règles de San.
Et un certain univers.
La fragilité des personnages reflète bien quand même une certaine volonté. De la part des concepteurs.
Évidemment.
Vampire, pareil. Alors, vampire, c'est vrai qu'on peut critiquer plein d'éléments du système. Peut-être beaucoup trop de pouvoir sur bourrin.
Évidemment. Évidemment.
Mais il y a quand même un système d'humanité, il y a quand même des trucs comme ça. Enfin,
là, tout ce que tu es en train de dire, tu vois, tout ce que tu es en train de dire là, c'est exactement ce que moi j'entendais quand je disais système d'osmateur. C'est-à-dire, en gros, bah, le système de résolution que vous utilisez pour émuler un univers, au départ, hein, eh bien, il a du sens, quoi. Donc on est bien loin du système d'osmateur que je décrivais avant, tu vois, ça a évolué. Mais tu vois, c'était ça l'idée, c'était de dire, donc attention, respectez les règles des jeux auxquels vous jouez, au sens tu vois. Bref, donc on en revient quand même un petit peu à mon article, mais tu vois, on s'en est quand même très très aligné.
Ouais.
Donc voilà, il est 2h22 de podcast, on n'a pas du tout développé...
Était 2h20 du mat.
Non, et on n'a pas du tout développé le protagonisme et le tu tombes dans les escaliers. Et est-ce que tu veux qu'on revienne dessus? Le protagonisme, ça m'intéresse beaucoup, ça.
Alors, du coup, je me demande si c'est pas un vaste sujet, mais...
Tu veux d'abord commencer par le tutoriel.
Non, mais en fait, tu me disais, est-ce que ton propos, c'est pas de défendre la règle d'or? Mon propos, à la base, c'était de défendre l'appel de Cthulhu. De dire que c'était quand même encore un bon jeu. Que peut-être, il y aurait peut-être moyen de faire des conseils dans la base plus adaptée, peut-être, des choses comme ça. Mais sans forcément changer le système de départ. Donc, premier élément... oui, effectivement, les règles sont adaptables. C'est-à-dire que tu peux décider ou non de faire un jet de dés dans les escaliers.
Même quand le scénar te demande de le faire.
Ça, c'est un problème du scénar, tu vois. C'est pas le problème du jeu lui-même dans ces cas-là. Pour moi, c'est un problème de scénario. Après, tu peux considérer qu'un scénario pour débutants, déjà. Pour moi, le problème, c'est que le scénario n'a. En fait, je dois avouer, je suis retourné sur la campagne des Masques de l'Orient Express. Des Masques de l'Orient Express.
J'ai hâte qu'elle sorte.
Ouais, c'est ça.
Les et Masques là... de l'Orient Express Renaissance.
Et là, il enlève son masque et derrière.
Ok.
Et je me souviens plus. Terreur sur l'Orient Express. Et en fait, Terreur sur l'Orient Express dit qu'en fait, tu dois faire un jet de dés dans les escaliers si tu essayes d'ouvrir, si tu te mets sur la porte qui est fermée avec 16 amphores ou plus et que tu essayes de tirer dessus en croyant qu'elle est fermée alors qu'en fait, elle résiste super, qu'elle résiste un tout petit peu, mais en fait, elle est fragile donc elle explose. Mm-hmm. Et donc, tu tombes des escaliers et tu meurs, en gros. Enfin, tu risques de mourir.
D'accord.
Ce qui n'est pas tout à fait le tu descends des escaliers, il pleut, faites tous un jet d'extérité
mais
pour voir qui meurt.
C'est aussi passionnant que le tout premier Alone in the Dark.
Ouais, c'est un peu le. Oui, c'est un peu l'esprit.
Quel game design
Mais déjà, si on s'inscrit dans le paradigme du. Avec la règle d'or, du jeu traditionnel, il y a un moment ou un autre, le meneur de jeu ne peut jamais, comment dire, se dédouaner je sais plus ce que j'avais utilisé comme mot. En tout cas, il peut pas se décharger de sa responsabilité de meneur de jeu sur le scénario. Il peut aussi, il débute évidemment, on peut pas accuser un meneur débutant de faire des erreurs, c'est normal. Mais au bout d'un moment, pour moi, le
pour
système.
Pour toi, ce sont des erreurs.
De quoi ?
C'est intéressant, tu viens de parler du mot erreur.
C'est ce que j'allais dire, parce que par contre, est-ce que l'auteur du jeu, lui, il peut se dédouaner d'avoir écrit un truc pareil ?
On peut, à la limite.
L'auteur ne fera pas du jeu, de la campagne.
On peut accuser le scénario d'utiliser un terme qui est trop, coercitif, par exemple. De dire, si les joueurs font ça, faites ça.
Ouais.
En même temps, ça fait aussi gagner de la place des fois d'être un peu direct, quoi. Si on doit à chaque fois prendre beaucoup de pincettes, on court le risque aussi d'une inflation des mots. Mais
bah, on est payé au signe, non ? Vaut mieux d'habitude d'être.
C'est compliqué, voilà. Il y a un moment ou un autre, malheureusement, il y a une partie où on pourra plus ou moins axer sur la précaution, plus ou moins axer sur la concision. Moi, j'aurais tendance à préférer la concision, j'avoue, quitte à le mettre dans les règles de base, le truc, et après dans les scénarios à être concis, mais voilà, on peut toujours se dire, mais à un moment ou à un autre, quand tu as fait un certain nombre de parties, tu peux plus vraiment te cacher derrière le scénario. Je veux dire, l'erreur, en fait, c'est de faire un jet si t'es pas content qu'un des deux résultats tombe, en fait, pour moi. C'est pas une erreur de faire un jet quand t'es sur un toit pour pas tomber. Si ton envie, c'est de faire courir ce risque-là aux joueurs et de leur donner le message que leurs personnages sont d'une fragilité extrême et que la mort peut surgir à tout moment, pourquoi pas ? On pourra critiquer ça, etc. Mais ce sera pas une erreur, ce sera un choix. Par contre, s'ils ratent leur jet et qu'ils meurent et que tu dis « Oh putain, c'est trop pourri, ils ont raté leur jet, ils sont morts », bah oui, mais fais pas de jet dans ce cas. Tu vois ?
Et Vincent, le Lave Chef, nous avait fait des remarques qui allaient dans ce sens aussi, en disant que dans Cthulhu, on avait tendance, nous, à la barreau, à lancer beaucoup trop de dés.
Ouais.
Et que théoriquement, les jets de dés et de compétences ne devaient s'effectuer qu'en cas de stress extrême.
Oui, mais bon, là, c'en était un, tu vois, donc du coup.
Voilà, c'est juste pour dire que y a plein de manières de patcher le système de résolution de Cthulhu. Enfin, plein de. Non, en fait, on va le dire simplement, il y a plein de règles d'or différentes.
Ouais. Bah oui, non, mais clairement.
C'est-à-dire que chacun a la sienne.
Je suis désolé. Mais moi, du coup, après, ça me permet de juger, quoi. Parce que c'était quand même la base de l'article System Does Matter. C'est à quel point mon super MJ est obligé de dépenser du temps et de la réflexion pour améliorer son jeu.
On en revient encore à ça.
Moi, je maintiens quand même que le propos de base du jeu qui est plus le jeu économise le temps et l'énergie de mon MJ ou de ma table, plus je le valorise. Et du coup, Cthulhu Dark, en 8 pages à 5, il me permet maintenant de faire des meilleures parties que Cthulhu tout seul. Et pourtant, j'ai joué à Cthulhu pendant des années. Hein. C'était même un des mêmes qu'on mettait sur Serial Realist. En fait, avec les copains, on jouait à Cthulhu. C'était pour se foutre de ma gueule qu'il était dessus.
Mais Cthulhu, en fait, je joue avec combien de pages quand je joue à Cthulhu, moi ?
Oui, mais Cthulhu Dark, en fait, en 8 pages, il est mieux.
C'est vrai, je viens de me rendre compte à 2 heures de podcast que j'ai pas présenté Jérôme et j'ai oublié de dire que c'était quand même l'ennemi.
Jérôme,
non,
dans
non, la non, page. Je suis personne.
Là.
Il peut pas le savoir. Putain, saleté.
Et donc,
Je vois ce que tu veux dire. Le problème, c'est est-ce que là, on est dans un cas où le jeu nuit au MJ ou pas, enfin ralentit le MJ ou pas. Je suis pas sûr, en fait.
Tu sais que y a une réflexion qui me vient en vous écoutant là, qui est que tout à l'heure Vivien et Jérôme vous parliez des jeux qui conseillent les MJ, tu sais, qui leur donnent des astuces de jeu et tout ça. Et en fait, je suis en train de me dire, en fait, ces livres, ils sont d'autant si tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast est vrai, ils sont d'autant plus stupides parce que de toute façon, il y aura aucun livre qui me conseillera pour jouer avec ces joueurs-là ici et maintenant.
Exactement.
Si, il faut que tu tailles tes crayons et que tu aies des gommes.
Ouais, ça par contre, je pense que ça marche pour tous les types de joueurs.
Que ce soit des jeux, et surtout pour jouer à quel jeu, tu vois. On peut éventuellement me donner des conseils. En fait, les conseils n'ont de sens. Attendez, je suis désolé, je vends ma soupe là, mais que s'il existe une partie du jeu idéale qu'il faudrait atteindre. Je vois pas comment donner des conseils sinon. Pourquoi dans quel sens donner des conseils sinon ?
Tu peux toujours donner des conseils du type.
Du type quoi ?
Adaptez-vous
à vos joueurs.
Du type ne faites pas faire de jet si vous n'êtes pas prêt à en accepter les résultats, par exemple.
Oui, mais ça, c'est valable dans le contexte de vieux jeux comme Cthulhu, dans lesquels il y a un système de résolution.
Moi, j'étais en train de
parler
de Cthulhu.
Mais non, mais je sais bien, mais ça veut dire qu'il n'est, en aucun cas, il n'est généralisable. Tu vas pas me faire un article généraliste avec un truc.
Ah, tu parles des livres généralistes.
Ah, oui,
livres généralistes. Mais pour moi, les livres généralistes s'appliquent généralement à partir du moment où il y a une pratique qui est assez commune, c'est-à-dire du jeu traditionnel. À partir du moment, le jeu traditionnel, il y a quand même une masse de jeux qui fonctionnent dans un sens relativement similaire, tu vois. Effectivement.
C'est fini. Alors là, c'est fini.
Je suis pas convaincu.
Non, quand même, je suis d'accord avec Vivien. Il y a quand même.
Regardez les jeux. Enfin bon, après je.
Non, mais pas tous, mais.
Non, mais tu vois, si tu
Not
prends.
All,
tu prends Écrime, je pense. Tu prends genre. Je
Aventure du joueur du grenier, c'est du tradit ou pas?
Ouais.
Vous trouvez ça tradit, vous?
Ah ouais.
Les mecs qui jouent devant sur internet.
Ah d'accord. Bon,
Avec un public, des types qui jouent via Skype.
Bah, ils auraient quand même bien besoin de conseils de jeu.
Le tradit dans les années 80, il serait passé à la télé, ça serait resté du tradit. Hein.
Oui.
Ok. Très bien. Donc,
en tout cas, c'est pas suffisamment différent pour que les conseils soient plus valides en fait.
Moi, je trouve qu'il faudrait
en rajouter, mais.
Il faut augmenter un peu notre finesse de grain sur tous ces sujets, à mon avis.
Oui, mais.
Continuons à faire
ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une masse relativement importante de jeux comme ça et une masse relativement importante de joueurs qui jouent dans ce sens-là, qui peuvent bénéficier. Ça ne veut pas dire que ces conseils-là sont applicables à toutes les situations, toutes les tables, etc., évidemment. Ça, je suis pas en train de dire ça. Il y a sans doute des gens qui trouveront les conseils pourris, d'autres qui essaieront de les adapter et de les appliquer et que ça ne marchera pas, d'autres qui les adapteront à leur table, enfin, etc., etc. C'est plus. C'est pas parce qu'il y a des conseils dedans que ça va forcément être appliqué, que tous vont être forcément appliqués, tu vois.
En tout cas, Vivien, tu as très bien fait le lien entre la règle d'or et le tu tombes dans les escaliers. J'ai bien compris pourquoi. Pourquoi, en fait, c'était une entreprise de réhabiliter, en fait, Toulouse en disant, attendez, vous êtes sévère avec le jeu.
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire
vous
que
êtes, vous allez
si,
loin,
tu veux,
quand même.
Si tu veux faire cafouiller Cthulhu, il cafouillera en fait.
Voilà, c'est
part.
Ça. C'est plus vous êtes, plus vous appliquez le système de Cthulhu de façon rigide. Et plus, bah oui, forcément.
Alors, mais pourtant, moi, je me rappelle qu'à l'assaut de rôlistes où j'ai commencé à découvrir autre chose que mes potes et ma cave, c'était une blague entre MJ de Cthulhu. C'était, regarde toujours lesquels de tes joueurs n'ont pas mis de compétences en saut.
Exactement.
Et tu pourras bien les niaquer.
Je voulais.
En fait, les gars, ils en jouaient parce que c'était et tout le monde jouait comme ça. En fait,
voilà.
C'était horrible et personne ne jouait comme il fallait.
C'est ça. Moi, j'ai toujours joué comme Jérôme le décrit en fait. Et moi, c'est ça qui m'amuse dans Toulouse en fait.
Mais moi aussi en fait.
Il est génial.
Non mais Cthulhu, moi ce qui m'éclatait et ça m'a fait marrer en tant que joueur comme ça m'a fait marrer en tant que meneur, effectivement. Pour le coup, j'ai eu les deux positions dans ce jeu, donc je peux pas dire, tu vois, que c'est un plaisir sadique ou alors c'est un plaisir sadique et masochiste suivant la position.
Tu peux être switch, hein.
Ouais, ben voilà, c'est là j'étais switch. C'est vrai que c'était les morts absurdes, quoi. L'Orient Express, c'est qui s'est fait choper par le monstre par la fenêtre du train et, fais ton jet avec le petit sourire, genre, vas-y, raté,
l'échec critique,
c'est ça.
Oui, c'est ça. Et oui, puis tu regardes, une chute de train, ça va faire combien de D6 et, et du coup, en fait, on en revient toujours à ça, finalement, dans le podcast de la cellule, il n'y a pas eu la critique vraiment du fait que quand tu tombes, d'un escalier, c'est relou. C'est juste que Natacha, telle qu'elle s'imaginait dans ses attentes une partie dans l'univers de H.P. Lovecraft, c'était pas ça. Et qu'on ait ses attentes ou qu'on les ait pas, c'est vrai que ça peut se discuter.
C'est vrai
qu'ils font la même chose quand on joue à Star Wars. Et c'est vrai que moi, à Star Wars, j'ai pas envie d'être le mec qui glisse dans le trou du sable et qui se fait bouffer par le verre alors qu'il a pas de nom, quoi.
Mais
et là, j'entends la critique de Vivien,
c'est-à-dire
que du coup, Adrien et moi-même, nous apprécions beaucoup de jouer à Cthulhu en mode l'échec, le monstre, ça nous rigole et tout ça.
Moi aussi. Hein.
Et en fait, du coup, on a, entre guillemets, imposé notre système ce soir-là à Natacha, qui elle aurait voulu que Cthulhu ce soit plus l'ambiance, le nanana. Et sachant que Flavie, elle est à fond dans le trip Adrien, Rome, machin.
Bah, en fait,
c'est intéressant dit comme ça.
Et donc, tu vois, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, nous, notre système de Cthulhu qui nous fait marrer, etc. Puis on a Natacha qui dit, ouais, mais moi, j'ai pas envie de jouer à Lovecraft comme ça. Moi, j'ai envie de l'appliquer autrement, la règle d'or.
En fait, moi, j'y vois deux choses. Et en gros, il y a deux éléments. Premièrement, effectivement, Cthulhu est pas condamné à jouer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des scénarios qui sont quoi, des huis clos, avec des discussions, et peut-être qu'à un moment ou un autre, il y aura une bestiole, mais ce sera vers la fin, et tu n'auras pas de jet où tu peux crever à tout moment, etc. Donc, il y a cette possibilité-là, les règles ne te l'interdisent pas, en fait. D'un autre côté, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même énormément d'éléments dans Cthulhu qui poussent à jouer dans ce sens-là. Les personnages sont très fragiles. Ouais. La majorité des scénarios te font rencontrer des dieux. Quand tu rencontres un dieu, en gros, tu crèves ou tu deviens fou.
On avait montré la petite BD qui est à la fin de Cthulhu V5, je crois.
Ouais, je sais pas laquelle c'est, parce que moi, j'ai pas de souvenir de BD.
Attends, je te la montre. Faut que tu vois ça.
Des parties de Cthulhu, moi, je sais que j'en ai fait qu'une seule où il y avait encore un personnage vivant à la fin.
Ouais.
Et pourtant, comme je dis, moi j'aime que mes persos soient les héros, les aides. Après, je suis bêtement le scénar qui lui souvent est assez létal, mais.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est létal, hein, Cthulhu.
Ouais,
le TPK,
en tout cas, ça pousse vers le létal, quoi.
Oui,
ça
c'est ah, l'équipe est morte en entier. Encore. Et c'est un Scooby-Doo morbide, voilà.
On peut pas dire, du coup. On peut pas vraiment dire que vous imposez vraiment le truc, quoi. Tu vois, c'est quand même une pente naturelle de ce jeu, quoi.
Et puis on va pouvoir se le raconter, tu vois, dans les soirées. On va se dire, ah, regarde, tu te souviens la fois où ça a foiré, etc. Donc,
ah oui, là, cette fois-ci, c'est moi qui suis devenu fou et qui t'ai mangé le cerveau.
Oh, trop bien. C'est ça, exactement. Donc, il y a vraiment un petit.
Et donc, du coup, moi, j'ai aucun problème avec le fait que ça plaise pas à Natacha. Je trouve ça anormal, effectivement, si c'est pas ce qu'elle attendait, si c'est pas ce qu'elle attendait, c'est normal. Par contre, là où bon, elle était sur le coup de l'énervement, c'était un peu en mode, mais c'est nul. Et c'est là où je suis pas d'accord. Et ce qui m'intéressait en fait de reprendre ça, c'était pas forcément pour reprendre ce que. D'accord, il y avait donc une BD à la fin de l'appel de Cthulhu. C'est la V5, effectivement. Non, c'est la V5.5, je crois.
Après, il y en a quand tu critiques des scènes au cinéma, ils disent que c'est moche. Donc...
Oui, mais eux, ils ont raison. C'est pareil.
Bon, les gars, arrêtez vos private jokes. Non, mais j'ai la sensation qu'il y a un système qui a émergé sur Cthulhu, qui est le Cthulhu nanar, où on fait des jets de dés, où on se marre.
C'est pas forcément nanar, mais oui, il y a un côté over the top, quoi.
Voilà, c'est ça,
clairement. Et donc, ça nous fait le lien avec le protagonisme. Excellent. Mais je sais pas si on a le temps pour.
Bien sûr que si, on a le temps.
On a tout le temps du monde.
J'avoue que. Ouais, il est tard et tout, mais.
Allez.
Non, c'est cool, mais c'est cool, vrai que c'est la suite logique.
C'est un peu le podcast total.
Ouais, c'est ça. après celui-là, il n'y en aura plus.
En plus, au début. Oh là là. Au début, moi, j'ai dit plein de conneries. Maintenant, on est sérieux, de quoi j'ai l'air.
Le protagonisme.
Et je suis en train de me remettre de la BD, il y a un mec tout moche qui saute sur une grenade, c'est pas possible quoi. Bah, en fait, on dirait Paranoia cette BD quoi, je comprends pas.
Mais tu vois, c'est ça qui
est. Il y a un mec qui picole, je crois qu'il fait c'est le non, c'est pas le MJ, ouf.
Moi je te dis il y a
comment ça ouf.
Il y a un mec sérieux quoi.
MJ qui picole. Je pense qu'il y a un côté jeu de plateau qui a émergé sur Cthulhu et qui en a fait un jeu dont on s'aime dont
c'est pas un jeu de plateau mais
amusants. Non mais en tout cas les échecs sont devenus amusants. Et en fait, Adrien et moi, on aime bien ça. Flavie, elle aime bien ça aussi. Et c'est ce système-là qu'on a appliqué parfois dans notre campagne des 5 supplices.
Ouais.
Et en fait, c'est ce système-là que Natacha condamnait.
Est-ce que c'est vraiment ce système-là? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes jamais mort, quoi, en fait.
Et tu noteras que je parle de système et pas de règles.
Oui, bon.
Oui, non, on n'est jamais mort.
Vous n'êtes jamais mort. Donc, non. Est-ce que vous appliquez vraiment. Ou alors c'est la campagne qui est peut-être un peu plus gentille
qu'elle est plus sympa. Ouais.
Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ?
Le protagoniste.
Oui, parce qu'à tout début du podcast, si je me souviens bien, tu disais que Cthulhu, c'était une réaction contre Donjons et Dragons à ce niveau-là. Et en fait, je ne suis pas convaincu. Partie convaincu, parce que l'OSR actuellement est très dans cet esprit Cthulhu. C'est-à-dire que, surtout quand tu vois Lamentations of the Flame Princess, qui est un jeu mi-Donjons et Dragons, mi-horrifique, ou ce qu'ils appellent le funeral, qui est une espèce de mode de jeu où tu démarres avec 30 personnages et ceux qui survivront passeront niveau 1 à la fin du scénar. Il y a vraiment ce côté, les personnages, c'est de la... Ils sont fragiles, quoi. Ils peuvent crever à tout moment.
Je ne sais pas si c'est une réaction, juste pour préciser, ouais. Je ne sais pas si c'est une réaction à Donjons et Dragons.
Il y a des réactions à Donjons et Dragons.
Quoi que ce soit, je me souviens que moi, quand on me l'a présenté à titre personnel, dans mon histoire personnelle, on me l'avait présenté comme une réaction justement à ces jeux dans lesquels il y a un personnage qui évolue vraiment sur le long terme, etc.
Ben, j'aime bien prendre Donjons et Dragons comme exemple, en fait. Voilà. Parce que regarde, Donjons et Dragons, première édition, et l'OSR aujourd'hui, c'est en gros, tu crées ton personnage, il n'a quasiment pas d'historique. Les pièges sont souvent mortels, Un truc comme la Tomb of Horror qui avait été créé par Gygax pour calmer les joueurs un peu trop puissants, parce qu'au bout d'un certain nombre de niveaux tu devenais un peu intouchable, c'est des trucs qui te désintègrent ton perso en un coup, enfin t'as vraiment un aspect, ton personnage tu, s'il veut survivre t'as intérêt à être malin et avoir de la chance quoi. Donc il y a ce côté là quoi. Puis arrive notamment, il y a beaucoup de gens qui reprochent Dragonlance, qui est une campagne Donjons et Dragons, Advanced Donjons et Dragons je crois, où là en même temps, il y a des bouquins qui sortent, tu joues les personnages des livres un peu, enfin ça sort en parallèle, donc c'est difficile de dire qui était le premier. T'as une histoire avec des trucs à trouver, t'as des ton personnage, il a des liens dramatiques avec certains endroits, donc il faut qu'il survive pour aller jusque là. Peut-être qu'un personnage va mourir de façon un peu héroïque, tu vois, et tu sens qu'il y a une histoire un peu chouette, tu vois, à raconter quoi. Et là, la perspective de faire un TPK, donc massacrer ton groupe dès le premier scénar, ça commence à puer un peu, tu vois, ouais, à ce niveau-là, quoi.
Ouais, okay.
Et puis tu commences à voir comme ça les éditions de Donjons et Dragons qui deviennent de plus en plus, tu peux toujours mourir, mais ça devient de plus en plus protecteur. Tu vois, les premiers niveaux, t'as peut-être plus de points de vie maintenant. Quand tu meurs, t'as 3 jets de dés avant de crever véritablement, et tu peux être soigné, etc. Et tu vois que t'as beaucoup de jeux de rôle comme ça aussi. T'as les points d'héroïsme qui apparaissent dans d'autres jeux de rôle.
Ah, oui,
et t'as tous les jeux qui commencent à développer ce système pour empêcher la mort, en fait, en quelque sorte.
Le point de destin qu'on entendait parler dans Hullbuck.
Ouais, bien sûr.
C'est ça, quoi. Ouais. Okay. Il y a ce côté, attention les mecs, vous pouvez mourir à tout moment, wink wink, genre faites semblant d'y croire s'il vous plaît, comme vous croyez que Bruce Willis va crever à la fin de Die Hard ou un truc comme ça, tu vois. Personne n'est vraiment dupe, ça arrive de temps en temps, mais aujourd'hui, généralement, quand quelqu'un meurt dans un scénario, dans un jeu de rôle traditionnel, c'est parce qu'il a dit « Partez sans moi, je me sacrifie contre le grand méchant » ou « Je prends la bombe et je saute sur lui en l'activant » ou alors il a dit « Non, mais j'ai envie de crever, mon perso, je l'aime pas du tout, je vais bientôt partir, je me jette sur lui. » »« Mais t'es sûr, tu vas crever ?»« Non, mais je me jette sur lui quand même. »« Non, mais t'es sûr, mais arrête de me sauver, bordel, je veux crever. »
En tout cas, il en a discuté
contrat
social. Est-ce que c'est pas aussi dû à une maturation du jeu de rôle qui s'imprègne au fur et à mesure des codes de la fiction anglo-saxon, du setup payoff, du sens donné à chaque élément de...
Setup payoff, ça veut dire quoi?
C'est le pistolet de Tchekhov, quoi.
Ouais. Enfin, en fait, chaque chose, il y a des films comme ça, genre Lego Movie, quasiment chaque chose, ça va être soit un gag, soit un setup, donc une amorce pour soit une référence, soit une révélation plus tard.
C'est l'école d'écriture à l'américaine, quoi.
Ouais, vraiment,
notamment, il y a d'autres qui l'ont suivi, mais Harry Potter, c'est les bouquins, c'est ouf, quoi. T'as plein de petits détails, et à la fin, genre, il y en a plein qui font sens parce que ils ont utilisé pour ça.
Voilà.
Et les gens, ils sont tout fous quand ils voient ça, quoi.
Et du coup, je me demande, est-ce que le jeu de rôle a pas simplement mûri dans son berceau en plus, les États-Unis, pour arriver à se dire, effectivement. Dans nos films, dans nos blockbusters, dans la plupart de nos trucs, on ne tue pas des personnages au hasard, à moins que
qu'il soit noir. Est-ce qu'il a mûri ou est-ce qu'il s'est figé sur une certaine piste, tu vois? C'est la grande question.
Oui.
Est-ce que
c'est bien aussi de se fixer sur la culture de fiction anglo-saxonne? C'est
une question qu'on peut poser. Si je voulais être optimiste, je dirais qu'il y a eu une phase de transition qui a été maladroite pour cette partie-là. Ceux qui se sont dit, ah oui, mais en fait, les films, c'est cool. Moi, je veux jouer un personnage qui survit à la fin, qui a setup payoff, etc., etc. Mais ils ont gardé le système d'avant et se sont retrouvés comme ça, comme je disais, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait une chouette histoire à raconter, éventuellement, mais en même temps, les jets de dés voulaient dire qu'ils pouvaient mourir. Donc on a triché toutes les deux minutes en inventant des trucs pour pas que les personnages meurent. Et puis c'était un peu, ça se voyait un peu, enfin bon... Il y a eu cet aspect-là déjà, donc ça peut-être la règle d'or, mais c'est pas systématique, parce que la règle d'or, on a vu que c'était aussi quand en fait le système ça pouvait pas s'appliquer ou connaissait ses faiblesses, mais ça pouvait être aussi ça, tu vois. Et puis tous les points de destin, tous les patchs, tous les machins un peu lourds.
Sur la règle d'or, enfin il y a aussi un aspect que t'as oublié,
ouais.
Qui était dans la deuxième définition que t'as donnée, je crois, deuxième donjon ou quoi, qui disait vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Si ça induit des défis logiques ou un truc comme ça, et je sais pas à quel point c'est lié à la culture du donjon, mais j'ai l'impression que c'est même allé au-delà. Il y avait beaucoup de jeux pour moi, même dans Cthulhu, même dans Chill, même dans Vampire des fois, où le vampire te proposait une énigme à résoudre en tant que joueur,
personne. Ouais, que joueur, ouais.
Les joueuses autour de la table plus que. Qu'en tant que personnage, en faisant un jet de logique, mais évidemment, je mets les pièces du puzzle comme ça. Non, tu montrais des pièces du puzzle aux joueurs et aux joueuses en disant « Alors, qu'est-ce que vous faites ?»
qui était parfois une bonne et souvent une mauvaise idée.
Ouais, des fois c'était bien, des fois c'était.
C'est risqué quoi. C'est.
Ouais. Mais bon, j'ai des bons souvenirs malgré tout.
Comme beaucoup de choses.
Mais il y avait aussi cette règle d'or, la règle d'or de si ça rajoute encore
un
en plus,
truc du fun quoi entre guillemets, autre forme de fun que celle de.
Donc en fait, Vivien, ce que tu veux dire, c'est que le protagonisme au cours des même dans l'univers propre à Donjon a beaucoup changé, même au cours des différentes versions.
Bah aujourd'hui, quand on regarde les, on parlait justement des actual plays en français, ce serait des parties pré-enregistrées de Donjon et Dragon 5. Ouais. On voit quand même que des fois il y a un personnage qui meurt, ça arrive. Mais la plupart du temps, tu vois, chaque personnage a sa petite sous-intrigue à lui, il crée un groupe, ils vont rester là un moment. Quand le personnage meurt, il y a eu des torrents, des tollés partout dans les spectateurs, parce qu'ils adoraient le personnage et qu'ils trouvaient ça scandaleux qu'il crève.
Fallait pas tuer Ned Stark.
Ouais, c'est ça, quoi. Bon. Il y a quand même, on voit clairement que, en tout cas, dans le jeu de rôle traditionnel, type un peu, héroïque, tel qu'on l'a quand même beaucoup pratiqué, tu vois, c'est quand même souvent ça. On vit des aventures, on explore des trucs, et ben on a envie que le personnage il survive jusqu'au bout, sauf si on a décidé qu'il crevait, quoi, en gros. Après, on a commencé à peut-être créer des systèmes qui, comme tu dis, orientaient plus sur quel rebondissement j'introduis et non pas est-ce que je survis ou pas.
Ouais.
Même si je pense que la plupart des jeux ont maintenu quand même un petit peu deux, trois systèmes comme ça de est-ce que tu crèves, est-ce que tu survis, tout en étant un peu ambigu sur le voilà.
Il y a aussi autre chose, c'est ça se déroule sur combien de parties les campagnes dont tu parles. Parce que quelque chose qui se déroule sur 3, 4, même 5 scénars, bah, au pire, si quelqu'un meurt au troisième, c'est pas très grave. Mais si la partie fait. Enfin, si la campagne fait 20 scénars.
Bah tu refais un perso.
Ouais.
C'est...
Je viens venger mon père.
C'est ça. Avec je me souviens d'un exemple. Je crois que c'était dans Terre de légende, tu sais, la série de livres dont vous êtes le héros, qui était un jeu de rôle en fait déguisé.
Ouais.
Enfin, pas si déguisé que ça, parce que je les avais lus, j'avais rien pigé. Il y avait un exemple qui disait.
Donc c'était un jeu de rôle.
C'est quand c'était un. Ma première rencontre avec les jeux de rôle, c'est je ne comprends rien. Ils sont où les chapitres? Et il y avait l'exemple du machin a perdu son personnage, donc un chevalier est caché derrière les fourrés et sort des fourrés pour proposer son aide aux joueurs. Bon, c'est sûr que là, on voit des fois que les conseils peuvent être un petit peu plus chiadés, que ça faisait pas très mature en termes de fiction. Ouais. Cela étant, tu as des personnes aussi qui ont du coup mis en avant le fait qu'il y avait d'autres formes de récits que la forme hollywoodienne. Ça, c'est le premier élément. Et notamment, certains ont mis en avant le fait que Donjons et Dragons pouvait être considéré comme un héritier du roman picaresque, qui est plus basé sur une série de rencontres, finalement, les personnages se révélant, en fait.
Ouais, alors ça, pour le coup, moi, du peu que j'ai pu en discuter avec des gens qui ont fait des études dans le domaine de l'art ou quoi, ils n'ont pas trop compris le rapport.
Alors à la limite, on peut remonter aux romans de chevalerie qui sont souvent constitués comme ça en fait. Le roman de chevalerie, c'est très souvent une série de rencontres avant d'arriver à un certain point. Après, généralement, t'as des personnages qui crèvent, d'autres. Généralement, le personnage principal survit malgré tout.
Ouais. Alors attends, ton propos, Vivien, là, c'est de dire calmez-vous sur le personnage qui ne meurt jamais et qui est toujours classe.
Déjà,
il existe d'autres types de protagonistes dans l'histoire de la littérature, du cinéma, de toute fiction, quelle qu'elle soit, que le jeu de rôle peut prendre, émuler, etc. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir à tout prix calquer son héros à soi qu'on aime, qui est immortel, qui est tout puissant,
en tout cas pas systématiquement,
et le mettre et de l'importer dans n'importe quel jeu de rôle, parce qu'un jeu de rôle peut vouloir aussi émuler une autre forme de littérature avec d'autres types de protagonisme.
Émuler ou pas émuler, on peut même se dire que quelque part la détermination de la structure n'est pas décidée par le système de jeu, elle n'est pas décidée par les joueurs, a priori. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, si t'as de la chance, ton personnage, effectivement, sera le mec qui dure du bout à la fin. Si t'as pas de chance, il crevera peut-être dès la première scène comme un personnage d'introduction qui arrive et...
Ouais, ok. Mais tu comprends pas ce que ça peut avoir de frustrant pour
bien sûr que je comprends.
Quelqu'un qui a une vision.
Mais c'est pour ça que je disais par rapport à ce que disait Natacha, par exemple, c'est que d'un côté je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, de l'autre je veux pas qu'on puisse dire que c'est nul en fait. C'est juste que il faut accepter si tu joues à ce jeu-là a priori, ou alors t'as deux possibilités, soit tu demandes au MJ de réserver les jets de dés pour des moments où vraiment
Là encore, quand Natacha dit c'est nul, elle ne veut rien dire d'autre, ça ne correspond pas.
Moi, en fait, je me demande à quel point ça vient pas de pourquoi est-ce qu'on vient jouer.
Oui.
Parce que Natacha, elle dit quelque chose, là-dessus, j'aurais tendance à la rejoindre, elle vient pour jouer un type d'histoire.
Ouais.
Alors qu'il y a des gens qui viennent pour jouer. Et j'ai l'impression que le fait de perdre son perso, ça vient d'un côté très jeu vidéo. Jeu de rôle originel, jeu de plateau, jeu d'échecs, tu es le pion ou le cavalier qui est tombé dès le début.
Il faut voir Natacha faire un personnage. Elle se casse le cul.
Mais bien sûr, ça va avec.
Et coup,
pour donc, moi, tu peux pas passer 4 heures à faire un perso pour te le faire buter dans les 10 minutes. Ça, on est d'accord que ça marche pas.
Et je me demande aussi à quel point ça vient d'une culture. Bon, après, ça dépend du jeu. Mais effectivement, moi, si on m'explique effectivement que c'est le jeu et que je peux perdre mon perso à tout moment, je vais me faire un perso plus Kleenex, plus jeu vidéo.
Ouais, mais c'est pas la vision que Natacha a après de Lovecraft, etc. Mais c'est pas ce qu'elle attendait.
Pour moi,
jeu,
ce qui est intéressant, c'est la pluralité. C'est pas l'annihilation du mode de jeu histoire sûr, ou celle sûr. Du mode de
Par
jeu.
Par contre, il faut savoir que quand deux types de systèmes se rencontrent autour d'une même table, c'est que lorsque deux personnes autour d'une même table ont des systèmes de jeu différents, tu prends de gros risques de voir ta partie dysfonctionner quand même. Donc là, on a eu un exemple avec Natacha. Elle nous dit, concrètement, elle nous dit, ce n'est pas le système que j'attendais pour une adaptation des œuvres de Lovecraft. Et Romaric et Adrien lui répondre, c'est comme ça, Cthulhu. Et là, tu dis, toi, Vivien, tu rajoutes sur Romaric et Adrien, tu arrives, non, stop, c'est pas comme ça, Cthulhu. C'est comme ça, votre Cthulhu. Vous avez une vision Adrien et Romaric qui est émergente, en fait.
Qui est assez proche, quand même, qui est émergente au sens où le système pousse quand même plus dans ce sens-là que dans le sens de Natacha, clairement.
Oui, tout à fait. Mais quand même, c'est bien de préciser.
Essayez Cthulhu Dark. C'est bien Cthulhu Dark et c'est gratuit.
Bon,
c'est gratuit, c'est bien.
Tu nous en fais la promo comme tu nous as fait la promo de Cthulhu Tech tout à l'heure.
Non, je crois que.
Cthulhu Dark, c'est.
T'es sérieux ou t'es pas sérieux?
Bon, écoute, s'il faut choisir entre les deux, je prends Cthulhu Tech. Si je dois prendre au hasard.
Non
trop tard.
Cthulhu Dark, c'est un vrai jeu.
C'est un vrai jeu. C'est un petit jeu gratuit en 8 pages à 5. Et qui gère.
Émule.
Ouais, un peu un Cthulhu sans fil de compétences, sans. Avec vraiment un système très minimal qui se. Tu le lis une demi-heure après, t'es capable de reprendre n'importe lequel de tes scénarios de Cthulhu et de jouer avec. Il gère très bien, en plus, le côté fun au début, où on a l'impression d'être assez balèze. Et plus ça va, plus il y a de la tension, parce qu'on se rend compte que le moindre jet de dé raté, plus on avance, plus il va être fatal.
D'accord, ouais.
Donc,
ça fonctionne très bien,
apparemment. Ça fonctionne, voilà. C'est très bien. Très chouette.
Excellent.
Donc, du coup, pour... en fait, voilà, l'idée, c'est que ça peut être cool aussi de se dire que tu... Contrairement au récit typique hollywoodien où tu sais à peu près où ça va, t'as 2-3 explorations à faire dans le scénario, mais à part ça, ton personnage, tu sais qu'il va survivre jusqu'au bout et qu'il aura son climax et tout ça. Ça peut être aussi extrêmement grisant ou motivant ou surprenant que le système soit à ce point finalement très incertain, parfois violent, parfois tu peux avoir de la chance, tu vois. Ça crée toutes sortes en fait de sensations que tu perdras quelque part avec un certain prix.
Évidemment, je suis totalement d'accord avec toi, Vivien. J'y apporte juste un bémol.
Ouais.
C'est qu'il faut que les joueurs soient OK pour jouer un jeu létal comme ça.
Mais ça, s'il y a quelque chose qu'on a sans doute peut-être gagné avec la modernité, c'est justement la volonté d'une plus grande clarté, en tout cas dans les contrats sociaux. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus?
C'est déjà pas mal.
Non, mais c'est déjà pas mal. Et après, ça s'inscrit, moi, actuellement dans ma mode, on va dire, passion pour l'OSR. C'est-à-dire que, quelque part, quand tu commences à faire planer cette menace de la mort à tout moment, tu forces aussi, quelque part, les joueurs à trouver des solutions peut-être plus... plus pointues, peut-être, à essayer de trouver des moyens détournés pour échapper au combat, par exemple. Ou contourner les difficultés, etc. On n'est plus du tout dans le mode héroïque au sens de je vous mets une difficulté, mais non, tournez pas le dos, vous savez bien, vous êtes des héros, je vous ai mis la difficulté pour vous faire briller, mais en fait, en réalité, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sera toujours cool, et on est là pour quelque part se faire plaisir, quoi. Là, c'est plutôt, ok, je vous ai mis une difficulté, vous avez marché dedans, vous êtes mort.
Là, je rappelle aussi que Vivien est l'auteur d'un jeu qui s'appelle Explorateur des brumes.
Ah oui, oui, mais en...
ah bah oui,
mais... en... oui, oui, non, mais tout
et
à fait.
Qui est en développement, mais oui, dont oui. on a déjà fait un test sur la cellule et que j'invite du coup à aller écouter parce que là, c'est la version appliquée de ce que tu es en train de nous expliquer.
Oui, oui, tout à fait.
C'est-à-dire que c'est ton, tes délires au SR du moment qui te poussent justement à réfléchir à, tout, à toutes ces étapes. De...
Bon, mais ça, il fait que j'ai toujours adoré marrant, Cthulhu, mais bon.
Ce qui est rigolo, c'est que quand je t'entends me parler d'OSR, moi, j'entends système Does Matter à la fin de chacune de tes phrases. C'est-à-dire, en gros, tu dis, c'est ça qui est rigolo.
Mais on a dit que système Does Matter toujours.
Bah oui, c'est
donc,
ça.
De toute façon, ouais. tu l'entends dans toutes mes phrases que je parle de ça ou d'autre chose.
Mais tu vois, c'est... Non, mais c'est marrant parce que tu... quand tu dis, par exemple,
remplace Flavie, hein, faut faire, faut faire ce qu'on peut. Hein.
Quand tu dis, par exemple, le fait d'avoir un jeu létal. Engendre des conséquences. Donc le fait de dire.
Ah, tu veux dire Rules Does Matter alors ?
Ben. Le fait de prévenir du coup ces joueurs que le système est létal entraîne des comportements chez eux qui sont justement de l'ordre de la prudence, d'être d'autant plus prudent dans les questions qu'ils posent au MJ et tout ça. Ah, ça y est, la bière est vide maintenant. En même temps, au bout de 2 heures, 3 heures de podcast.
Pas si vite que ça. Hein.
Heureusement qu'elle l'est. Quoi.
C'est, les et deux donc, autres le sont, par
les
contre.
Les deux autres.
Mais il fallait pas le dire.
Donc voilà. Et donc, ce qui compte, par contre, et là, j'en reviens quand même aux idées qu'on a beaucoup défendues sur la cellule, c'est que bah, tout le monde soit d'accord sur ce qu'est le système ce soir et que tout le monde soit OK, comme dirait Valentin.
À la limite, ça va un peu dans le
OK.
Ça va un peu dans le sens de Rules Does Matter. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si je préviens.
Mais non.
Si je préviens les joueurs que mon système est mortel mais que je tue jamais personne, il y a un moment où ils vont se dire.
Mais non, attends.
Ouais, bon, ok. Non, si les règles, par contre, que j'utilise, donc si la partie du système que j'utilise, c'est-à-dire les règles que j'utilise,
système,
si on dit système, si tu veux, c'est trop global. Il y a un moment où il faut qu'on dise rules, tu vois.
Ah non, tu parce que le les rules, c'est les règles qui sont écrites dans la base.
Oui, mais du coup, le système, c'est pas que les règles telles qu'elles sont appliquées à la partie, c'est aussi.
Mais non, parce
donc,
que.
Système de résolution,
non,
si
ah,
tu veux.
Ah, mais disons, c'est hyper important.
Ouais,
ça.
Mais non, mais parce lequel que, on emploie pour le alors, système.
Mais non, mais parce que les règles dans la base.
Oui, mais moi, je te parle des règles telles qu'appliquées pendant la partie.
Bah, alors là, on est dans le système.
Oui, mais je te parle de cette partie du système, pas du système en entier.
Donc, c'est-à-dire
la partie règle du système, la partie règle de résolution. Ouais. Je ne sais pas quoi dire.
Non, c'est chiant. Non, mais c'est chiant. Je suis d'accord avec toi. C'est super.
Alors,
chiant.
Il faut trouver un terme pour ça.
Il faut regarder le diagramme à Christophe, hein, parce que tu as le contrat social qui contenait un autre truc.
Je crois que c'est les éphéméras ou je sais pas quoi. Là, c'est les tréfonds.
Ça date de 2011.
Juste un point. Le problème de parler des règles qui s'appliquent au cours de la partie, c'est que elles s'appliquent, c'est vrai, mais elles ont au préalable été interprétées par quelqu'un.
Oui.
Donc ce ne sont jamais les règles de l'auteur qui s'appliquent
sur
une partie, mais les règles telles qu'elles sont
et même l'auteur, il les interprète d'une
par
façon
les
et d'une autre.
J'emploie encore le mot joueuse ici à raison, en référence aux joueuses Does Matter, par les joueuses autour de la table.
On est d'accord.
En fait, il n'y a pas cette partie, même si je vois très bien ce que tu veux dire, Vivien. Effectivement, il...
Mais méfie-toi à trop verser dans le système Does Matter, enfin dans le système machin, on finit par plus pouvoir parler des choses.
Si tout est système, plus rien ne
l'est. Ça.
Non, mais bien sûr, je sais.
C'est parce que bon, finalement, les règles telles qu'elles sont écrites dans le bouquin, à la partie, on s'en fout, tu vois. Enfin,
elles sont importantes pour l'auteur du jeu et pour la transmission.
Bien sûr. Ouais. Non, mais
pour la transmission du système.
Elles existent. À un moment,
il y a
un livre physique avec des règles écrites dedans.
Bah oui, elles existent. Ouais.
Mais c'est pas celle que l'auteur avait en tête quand il les a écrites, peut-être.
Plus.
Ouais. Il a peut-être mal communiqué. Enfin,
c'est même pas celle avec laquelle il jouait pendant les playtests.
Hein. Ben, en plus, et puis de toute façon, d'une partie ou une autre, il les applique pas. Enfin, moi, d'une partie ou une autre de Libreté, je vais pas utiliser les règles exactement au même moment. Tu vois, si on comparait vraiment minutieusement à quel moment je demande un jet de dé, je suis sûr qu'on verrait qu'il y a des fois où je suis incohérent, il y a peut-être des fois où je suis plus méchant, d'autres fois plus sympa.
Bien sûr.
Alors, ce serait peut-être un réglage un peu fin, mais malgré tout, il y aurait quand même un
alors,
réglage.
Alors, pourquoi
quoi.
Tu voulais revenir aux rules Does Matter? Donc, toi, tu veux dire
les
règles appliquées Does Matter?
Oui, voilà, les règles appliquées Does Matter. C'est-à-dire que si, à un moment ou un autre.
Ce podcast est hallucinant.
Non, mais c'était juste pour dire qu'à un moment ou un autre, les règles.
Ah, c'est un mot difficile à dire.
Voilà, ont une incidence sur la partie. Voilà,
mais bien sûr.
C'était juste pour dire ça.
Bien sûr, non mais bien sûr. Non mais en fait, ça semble évident. Ça semble évident. On dit pas non plus que.
Si tu veux, je peux l'appeler contenu ludique malé.
ta gueule. T'es dur avec moi. J'essaye de mettre des mots là où il y en a pas. Après, c'est, je sais que mes mots sont chiants.
Non, mais je désolé, comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est dur.
Il faut essayer d'être clair, tu vois. C'est à un moment donné. Mais c'est non, mais c'est,
le contenu ludique dur.
Je ne sais pas si le contenu ludique dure, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce podcast dure depuis 3 heures.
Mais là, écoute, je pense qu'on arrive à peu près au bout, parce qu'après, il y aurait d'autres choses, mais je pense que ça s'éloignerait.
Mais en fait, je pensais qu'on allait pouvoir réunir facilement nos deux articles, tu vois. C'est pour ça qu'on avait prévu ce plan bizarre, règle d'or et système imaginé, là. Mmh. Et au final, système idéal. Et au final, j'ai pas l'impression d'être très pertinent pour rebondir, tu vois.
Bah, j'en sais rien.
Est-ce que ma petite explication de tout à l'heure te permettrait d'améliorer le contenu de tes articles? J'en suis pas certain.
Je suis pas certain, mais de toute façon, c'est peut-être parce que mes problèmes se situent à un autre niveau. Mais en tout cas, je pense que ça a permis de clarifier pas mal de choses. À voix haute, en tout cas. Après, on verra ce que les gens en font, mais.
En tout cas, on avait prévu, c'est juste pour expliquer, pour clôturer ce podcast, on avait prévu, en fait, que. On pensait que la description, que nos deux articles, en fait, avaient des liens, en fait, quand on a préparé ce podcast.
Ou en tout cas, ouais.
Et j'ai l'impression, en fait, au sortir de ce podcast, que pas tant que ça, finalement. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. J'ai la sensation que toi, tu travailles vraiment en ce moment sur l'OSR, tu vois.
Ouais.
T'es vraiment. Alors que moi, je sais pas si le système.
L'OSR, et puis même, tu vois, le. Ouais, je sais pas, le principe de jeu tradi avec boîte à outils, des règles que tu utilises des fois pas, ou de choses comme ça, en fonction des circonstances, ou d'un scénario qui va ajouter une petite règle juste pour le temps du scénario.
Alors je dirais que peut-être mon article, lui, te montre que. C'est pas parce qu'on est un partisan du système Dozmatter qu'on est forcément fermé à l'expérience OSR.
Parce que
c'est quelque chose qui court dans l'air aussi un petit peu, que je sens dans l'air, qui est qu'il y a d'un côté les gens qui sont en mode ESR et de l'autre côté système Dozmatter. Et ça, c'est pareil. Moi, je trouve ça un peu suspect. Je sais qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Tu vois, il y a des courants de pensée très, très définis. Mais
De toute façon, malheureusement, Ronan Ward, c'est une personnalité assez clivante.
Tu veux qu'on parle de Zach Smith là?
Zach Smith, il a fini par être clivé, quoi. Donc, de toute façon, Ronan Ward.
Pour le coup, moi, la lecture de Café Noir de Doc Dandy de Alban, là, Café Noir, le jeu de rôle, qui est un jeu OSR où on joue du roman noir et qui contient des petites touches, quand même, plus d'une, même des fois. De trucs forgiens, notamment qui ressemblent des fois un peu au front d'Apocalypse World pour gérer les menaces. Et tout en gardant la grosse souplesse de l'OSR et un système quasiment de jeunesque, alors que tu vas jouer de l'enquête noire, et bah franchement, ça donne une idée, à mon avis, de. Pas le futur, mais voilà, de. Tiens, quel genre de truc on va pouvoir faire en prenant la liberté de l'un et les avancées de l'autre, ou plus de l'un ou dans l'autre. Enfin, de toute façon, oui, il n'y a pas à cliver, en fait. On peut mixer tout ça.
Je comprends très bien les ambitions d'LG. Je comprends très bien les ambitions d'Éric Niodan. Je comprends très bien ce que dit Vivien Féasson. Tu vois, quand je lis les articles de Vivien...
Ah non, moi j'ai pensé au truc que tu disais, comme quoi c'est clivé et tout, que d'un côté il y a les uns de l'autre.
Par exemple, tu me classerais dans quel. Dans système, s'il fallait me classer dans un clan, tu me dirais je suis plutôt système Dozmatter, école synthésienne.
Toi t'es dans ta baronnie là, tu.
Oui, non mais d'accord.
Mais
ni dans l'un ni dans l'autre.
Ce que je veux dire, c'est que j'ai.
Pourtant, quand tu vois.
Ouais, non mais en fait, il dit ça pour faire plaisir à ses amis, mais en réalité.
Non mais. Ce que je veux dire par là, c'est que.
Moi aussi, quand même.
Va des mécoms, clairement.
Fond, quand même. Voilà, merci. Donc, du coup, et je comprends très bien, tu vois, la recherche. Mmh. C'est pour ça que j'ai du mal à me dire, avoir les oppositions, avoir une espèce d'école.
Non, mais c'est pour ça que je te parlais de personnalité. Oui. C'est-à-dire que quand Ronan Ward dit ceux qui jouent à Vampire ont des brain damage et tout le vocabulaire. Peu importe, ça ferme toute, tu vois, possibilité à la discussion. Maintenant, moi j'ai vu récemment, tu parlais de Zach Smith, et donc on va pas rentrer dans le débat parce qu'il est un peu tard pour ça. Mais maintenant que Zach Smith a été en gros dégagé de la sphère, on commence à voir des passerelles se créer à nouveau entre Story Gamer et OSR. C'est-à-dire que là, j'ai par exemple, le Kickstarter sera fini le temps que le podcast soit diffusé, ça c'est clair. Parce que c'est en ce moment, c'est un jeu Apocalypse World qui est The Veil, qui est un jeu cyberpunk, qui sort un supplément en ce moment, futuriste, un peu à la Cowboy Bebop et tout ça. Et tu as dans les récompenses du Kickstarter une autrice OSR qui vient faire un module OSR en fait basé sur le jeu lui-même, tu vois, par exemple. Tu as quelqu'un qui s'appelle Luca Rejek, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de jeux en ce moment, comme Witchburner, il me semble, et Ultraviolet Grasslands, qui, dans les conseils qu'il a mis de son mode de jeu, il dit, bah, moi, quand j'ai un joueur, le seul joueur hobbit, par exemple, du groupe, quand il arrive dans un village et qu'il y a un village hobbit, je lui dis, eh ben, écoute, d'après toi, comment les hobbits, etc., quoi. Je suis pas sûr que Luca Rejek ait lu des masses de Apocalypse World, mais on voit comme ça des passerelles qui apparaissent à plusieurs endroits, qui étaient peut-être impossibles à cause des personnalités clivantes.
Ouais, voilà, parce que moi je vois pas d'autres raisons. Parce qu'en vrai, avec LG, quand je l'entends parler de ses jeux, on ne parle que système de ce matter. Il est toujours en train de m'expliquer en quoi ce qu'il a mis en place autour de la table, ça fait que ça crée telle ou telle émulation, que ça fait, tu vois. Et donc.
Mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons résolu tous nos problèmes, il est temps de nous tourner vers le vrai, véritable ennemi, le jeu en performance.
On a déjà fait un podcast dessus.
On a dit que c'était pas vraiment un vrai.
Voilà,
donc,
c'est pas du tout un ennemi, en fait. C'est une autre pratique.
Eux, ils s'en foutent du système. J'en sais rien, en fait, je sais pas.
J'utilise un autre système. Il s'applique à même.
Ah mais le système, c'est trop facile, là.
C'est quoi?
De quoi? Le jeu en performance?
Non, écoutez. On va pas lancer ça. Alors. De podcast.
Ça tombe bien que tu poses la question.
Précédent, merci. Sur le jeu en performance. On va peut-être s'arrêter.
Non, mais je sais pas ce que c'est quoi?
Non, mais j'en fais plus.
Non, mais. À bon, suivre allez. Pour un prochain podcast.
Est-ce que c'est le jeu en performance?
Je vous ai dit que le podcast était avant. Je l'ai déjà diffusé. Vous voulez que je vous le dise en quelle langue? En klaxon? En langage de Babel?
Il faut le chanter.
Oh non, mais bon.
Il est là.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On voit que Vivien est un partisan de l'OSR, parce que comme LG, il nous fait des podcasts de 3 heures.
Et horrible, merci. Cette BD, c'est pas possible.
Elle est horrible, tu es en train de regarder la BD de Cthulhu, là.
Oui, il y a une nana qui fait de la méditation avec des raquettes et elle a une bougie entre les pieds. Je crois que c'est un jeu porno, en fait.
C'est glauque.
Attends, il faut que je lise ça.
Elle est glauque.
Ah non, mais c'est vraiment sale.
Il y a un monsieur, il met sa main dans le sac à main de la dame et il se la fait manger, visiblement. Ouais. Donc
c'est une BD sur le système émergent de Cthulhu façon nanar.
Bah merci Richard Fischer.
Oh là là, cette fin incroyable. Allez, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien, c'est ça qui compte. À très vite.
Bye bye.